Vous écoutez France Culture.
Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Alain Rey, qui publie deux livres, Miroir du monde, une histoire de l'encyclopédisme chez Fayard, et L'amour du français contre les puristes et autres censeurs de la langue chez De Noël. Ce rond de science que les Grecs ont nommé encyclopédie. Je suis très impressionné de vous recevoir, Alain Rey, car je pense que vous êtes l'une des rares personnes à avoir lu un dictionnaire de la première à la dernière ligne.
Oui, c'est un sport qui est rarement pratiqué, en effet.
Et en plus, vous avez une œuvre lexicographique extrêmement importante, les Robert.
Oui.
Les Robert, tous les Robert.
Enfin, j'ai participé à la plupart d'entre eux, sauf les dictionnaires bilingues, qui sont hors de ma sphère d'activité.
Mais le dictionnaire historique de la langue française, le dictionnaire culturel en langue française...
Ça, ce sont mes idées, en plus. Ouais.
Donc ça suppose que vous avez lu quelques livres.
Oui, notamment, je dois avoir lu l'intégralité du dictionnaire des 1000 littrés, ce qui n'est pas toujours une activité drôlette, mais ce qui apprend énormément de choses sur le maniement du français à cause de la richesse en citations littéraires qu'on y trouve. Mmh.
Un dictionnaire, ça s'écrit avec des dictionnaires ?
Un dictionnaire s'écrit avec des dictionnaires, hormis les premiers, bien entendu.
Mais un dictionnaire historique ou culturel, ça déborde un peu.
Ça déborde énormément. C'était le but de l'opération, d'ailleurs.
Je vais rappeler que vous avez aussi obtenu le prix de la biographie de l'Académie française pour votre livre Antoine Furtière, un précurseur des Lumières, publié l'an dernier, chez Fayard. Alors, je disais que dans l'actualité, vous avez deux livres. On commence par Miroir du monde, que vous avez sous-titré « Une histoire de l'encyclopédisme », un livre publié chez Fayard et qui traite des encyclopédies en étant lui-même forcément encyclopédique.
Encyclopédique. Mais j'ai choisi de prendre le mot encyclopédisme plutôt qu'encyclopédie parce que la première formulation englobe un concept beaucoup plus vaste.
Mmh. Encyclopédique ne veut pas dire exhaustif.
Non, pas du tout.
Et votre propre essai, vous le dites vous-même,
bien sûr,
est incomplet.
Heureusement. Sans ça, ça serait écrasant.
Vous avez choisi les problèmes que vous avez décidé de ne pas traiter ?
Pas vraiment, mais j'ai essayé de sélectionner dans les connaissances que j'avais du genre ce qui me paraissait pertinent, soit dans l'évolution du genre, en effet, soit comme image ou traduction d'une certaine idéologie culturelle à une époque donnée.
L'encyclopédie, on peut le rappeler, en tant que ouvrage de référence et projet éditorial apparaît au sens où on l'utilise aujourd'hui, ce mot, en Europe occidentale au cours du XVIIe siècle.
Oui, vraiment dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui, parce que les précurseurs sont nombreux et très anciens.
Alors que le mot que vous avez préféré, l'encyclopédisme, existe, lui, depuis beaucoup plus longtemps.
Oui, parce que c'est une attitude d'accumulation du savoir et de synthétisation du savoir dans un but pédagogique, ce que dit Pédi dans l'encyclopédie.
Alors, ce que nos auditeurs n'ont peut-être pas entendu quand j'ai donné le titre de votre livre, c'est le S de miroir.
Et en effet.
Miroir du monde. Et je crois que ce S est important pour vous.
Bien sûr, parce que le miroir, c'est... J'ai pensé d'ailleurs, non seulement, ça tous les gens qui connaissent un peu le Moyen-Âge le verront bien, j'ai pensé à l'expression d'une des plus grandes encyclopédies médiévales au XIIIe siècle, celle de Vincent de Beauvais, qui s'appelait Speculum Mundi, c'est-à-dire miroir du monde au singulier, avec l'intention de donner une représentation du monde qui soit organisée, systématique, et c'était possible au Moyen-Âge parce que la systématisation et la globalisation se faisaient au nom de la foi chrétienne, qui donnait un modèle dans lequel on pouvait placer toutes les connaissances, chose qui va être secouée vigoureusement par Diderot et d'Alembert au XVIIIe siècle, et qui va disparaître après au profit d'autres méthodes. Et auparavant, les encyclopédies ne prétendaient pas tellement donner un miroir du monde que de donner des moyens d'accéder à un savoir efficace, souvent politique. Les Chinois, en particulier, et les Arabes, ont une vision de l'encyclopédisme qui est inscrite dans une pédagogie collective, pas forcément politique. C'est le cas d'ailleurs, il y a un petit passage sur Byzance qui est assez rigolo, parce que les grandes encyclopédies byzantines sont en fait des manuels politiques à la gloire de l'empereur qui est censé les signer et les assumer. Et en Chine, c'est pas la même chose, mais ce sont tout de même, en général, les détenteurs du pouvoir suprême, donc les empereurs, qui commanditent les encyclopédies, qui, elles, seront réalisées par des armées de scribes et de penseurs qui vont fournir des sommes absolument considérables, parce que en Chine, l'idée d'encyclopédie, où c'est la pédagogie qui compte plus que l'aspect scientifique, est aussi une idée qui est très fortement anthologique. Il s'agit de récupérer les grands classiques de la langue chinoise, dont certains ne sont transmis que par des intermédiaires très nombreux. Le plus évident étant Confucius, qui, je le rappelle, est contemporain de Platon, mais dont la pensée ne se connaît que par des textes très postérieurs.
Donc on retiendra que ce pluriel est de rigueur, car l'encyclopédisme est très différent en fonction des époques et des civilisations, depuis l'Antiquité classique et chinoise jusqu'à notre ère de l'informatique.
Absolument, et si vous voulez, je pense qu'on a une sorte de parcours en boucle entre les premières encyclopédies de l'Antiquité romaine, notamment, Pline l'Ancien, etc., qui sont partiellement encyclopédiques, mais qui le sont quand même fortement dans l'intention, ou les premières grandes encyclopédies chinoises, qui sont elles aussi antiques, et puis l'informatique en passant par tous les stades intermédiaires, et qui correspondent chacun à une inflexion qui est souvent due à la technique. C'est-à-dire que quand on passe du parchemin au papier, quand on passe du manuscrit à l'imprimerie, il se passe quelque chose qui va avoir des effets naturellement sur la littérature en général, sur la communication sociale écrite, mais plus spécifiquement dans ce domaine de l'encyclopédie qui est le plus coûteux finalement en représentation écrite.
L'un des traits propres de l'encyclopédie, donc quelles que soient les époques et les civilisations, c'est d'être un médiateur social. Des connaissances.
Il y a toujours une intention de faire passer un ensemble de connaissances plus ou moins sincères pour étant la totalité de ce qu'il convient de savoir.
Et ça vise toujours à une certaine globalisation. Donc,
Oui, ça vise à la globalisation sans jamais l'atteindre, bien entendu, puisque c'est toujours fortement marqué par la culture qu'il élabore. Thank you.
Vous le soulignez à l'arrêt au début de ce livre, Miroir du monde, qui est publié chez Fayard, dans la conscience collective moderne, ces mots encyclopédie et dictionnaire et leurs équivalents sont étroitement liés.
Oui, et il y a même une confusion qui se produit, en tous les cas, en Europe occidentale, à partir du 19e siècle, où on a un modèle qu'on appellera, pour simplifier, dictionnaire encyclopédique, et dans lequel on mêle la description du vocabulaire d'une langue, en l'espèce pour nous le français, mais ça peut être l'anglais, l'allemand, toute autre langue de culture, et puis la connaissance des choses auxquelles la langue donne accès. Mais la sémiotique, car c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est la manipulation et l'organisation des signes, n'est pas la même dans les deux cas. Et vous avez pu constater que je m'appuie dans ma démonstration, si démonstration il y a, sur l'opposition philosophique que fait Umberto Eco entre dictionnaire et encyclopédie, qui me paraît parfois un peu rugueuse, parce que la réalité est plus compliquée, et plus il y a des intermédiaires nombreux, mais qui me paraît très pertinente au fond des choses.
On peut dire que le dictionnaire donne accès à une langue et l'encyclopédie voudrait donner accès au réel.
Un savoir qui maîtriserait le réel, c'est-à-dire qu'une langue, c'est une entité limitée, parce que ça se limite à un vocabulaire. Chacun n'invente pas ses mots, c'est donc la communauté qui le fixe. Quelle que soit l'immensité de ce qu'il y a à décrire, c'est limité par définition. Alors que dans l'encyclopédie, on entre dans le domaine des jugements sociaux et des connaissances qui sont explicites ou implicites, ce qui veut dire que c'est ouvert à l'infini.
Encyclopédie est attestée en 1520 en français chez Guillaume Budet.
Oui.
Vous avez pu le vérifier.
Oui, j'ai pu le vérifier, tout à fait. Et un des emplois les plus intéressants, celui de Rabelais, qui va très vite toujours et qui est toujours à la pointe de l'actualité à cette époque-là.
Mais il y a eu beaucoup d'autres désignations, souvent métaphoriques, pour nommer ce genre d'ouvrage.
Et c'est assez beau d'ailleurs, parce qu'en tous les cas, la civilisation chinoise et surtout la civilisation arabe a trouvé des désignations que j'ai trouvées magnifiques pour les prés du savoir, enfin, des quantités de métaphores qui portent souvent sur le trésor, la richesse, le parcours, le labyrinthe, la mer des connaissances, l'océan du savoir dans lequel on peut naviguer ou se noyer d'ailleurs. Enfin, tout ça est très suggestif et il y a une qualité littéraire à ces époques-là qui est aussi présente au Moyen-Âge et qui va devenir plus faible après, en tous les cas en Occident, parce qu'on entre dans une époque de fonctionnalisme et d'efficacité.
L'un des grands problèmes, c'est comment structurer ce genre d'ouvrage. Vous avez dû le connaître vous-même.
Naturellement. Et aujourd'hui, on constate avec un peu de dépit que la meilleure manière de le structurer, si on veut que le livre fonctionne et soit utilisé et donc vendu, c'est malheureusement, je dirais, l'ordre alphabétique. Parce que je prendrai un seul exemple qui est une excellente encyclopédie qui a été un petit peu dévalorisée par les circonstances historiques quand elle a été dirigée par Anatole de Monzy, qui était ministre sous Vichy, donc ça tombait assez mal. Mais l'encyclopédie française, c'est d'elle qu'il s'agit, est une encyclopédie qui a complètement raté son objectif et qui n'a pas eu de réussite, parce qu'elle est classée de manière forcément arbitraire par domaine, par thème et par sujet, et que l'utilisateur moderne veut absolument de l'alphabétique pour avoir un repérage commode, parce que l'alphabet nous permet de mémoriser, croyons-nous, la totalité des connaissances, mais ne nous permet évidemment pas de les articuler, de les organiser.
Mais vous, Alain Rey, qui avez sur votre table de chevet toutes les encyclopédies qui ont été éditées dans le monde...
Heureusement, il me faudrait une table kilométrique.
Vous avez pu constater que le classement adopté n'est pas toujours explicite.
Non, il n'est pas toujours explicite. Et dans les époques où ça n'est pas l'ordre alphabétique, ce classement révèle évidemment l'idéologie de l'opération. Dans ces encyclopédies arabes, par exemple, où on commence par les choses de l'esprit et les choses de Dieu, pour terminer par les activités les plus quotidiennes et les plus humbles, c'est évident qu'il y a une vision totalement hiérarchique de toutes les activités humaines. Et ce qu'il y a de très intéressant, c'est au Moyen-Âge, ces encyclopédies, notamment le Speculum Mundi de Vincent de Beauvais, dans lequel l'ordre de présentation est celle des jours de la Genèse, la création du monde par Dieu dans la Genèse. Pourquoi ? Parce que ces jours de la Genèse, avec les activités de Dieu qui crée le ciel et la terre, ensuite les fleuves et les montagnes, etc., sont mémorisés par tous les gens qui savent lire et écrire, qui ont tous accès à la Bible et qui la connaissent quasiment par cœur, en tous les cas le chapitre de la Genèse.
Mais vous qui êtes un homme de l'art, vous pensez qu'il y a une unité du savoir que doit refléter une encyclopédie ?
Je crois que c'est plus possible aujourd'hui. En tous les cas, tous les classements conceptuels tentés au XXe siècle sont évidemment enfermés dans des options idéologiques. Rien ne permet de dire, pour prendre un exemple très simple, dans la classification des sciences, c'est un énorme problème en épistémologie, qu'il faille partir la pensée humaine, c'est-à-dire finalement de la neurologie du cerveau, ou qu'il faille partir des abstractions que cette neurologie a rendues possibles, mais nous ne savons pas comment, qui sont par exemple les mathématiques. Donc là, il n'y a pas de solution. C'est une option, et cette option révèle les positions épistémologiques de l'époque.
Donc une division profonde de la connaissance scientifique.
Ah oui, et puis alors, les différences sont telles d'une civilisation à l'autre et d'une époque à l'autre, qu'on voit bien que le projet n'est pas cadré d'une manière ni définitive ni stable. Ça change perpétuellement.
Il y a aussi des changements d'optique. Au Moyen-Âge, comme dans l'Antiquité, en Chine, comme dans l'islam classique, l'encyclopédie moralise, instruit, éduque, vise à l'intégration sociale.
Elle a l'objet, enfin très, très explicitement, en Chine, ça s'inscrit dans le système du mandarinat, il faut préparer les grands administrateurs à avoir la masse de, non seulement de connaissances du monde, mais de références textuelles. C'est une vaste opération philologique dans laquelle, à un certain niveau, par exemple, d'administration, il est indispensable de connaître les principales pensées de Confucius, Mencius, et même certains poèmes, ce qui nous fait rêver aujourd'hui par rapport à l'activité politique contemporaine.
Il y a un changement de cap après le XVIIe siècle où là, l'encyclopédie cherche avant tout à informer.
Elle cherche à informer, mais
avec quelques exceptions.
Alors oui, parce qu'elle peut chercher à informer en stabilisant et en garantissant un ordre qui va être au début l'ordre chrétien, et puis ensuite on entre dans la période magnifiquement décrite comme étant celle du Dieu caché, dans lequel d'autres valeurs vont prendre la place progressivement pour entrer dans ce qui nous est le plus familier à nous Français quand on prononce le mot encyclopédie, qui est le travail de Diderot et d'Alembert, qui est parti d'un modèle anglais, l'encyclopédie Cyclopédia de Chambers, qui elle était très sage. Et Diderot et d'Alembert en ont fait une arme de guerre contre l'Ancien Régime, contre la religion dans une certaine mesure, en tous les cas contre la superstition, et pour les valeurs qui vont aboutir à l'idéologie préparatoire de la Révolution française.
Il y a donc un peu de polémique
Il y a beaucoup de polémique. Et ça va continuer, parce que un dictionnaire, il ne s'appelle pas encyclopédie, mais qui est largement encyclopédique, et qui est très savoureux d'ailleurs, qui est celui de Pierre Larousse, est aussi une espèce de brûlot contre le pouvoir absolu, qui est celui de Napoléon III à l'époque, contre la tradition immobiliste, et pour une psychologie et une sociologie du progrès qu'on va retrouver chez Auguste Comte, chez Victor Hugo, avec des modulations différentes, bien sûr.
Larousse, c'est votre grand concurrent ?
C'est aujourd'hui notre grand concurrent, je dis notre en parlant du dictionnaire Robert, parce que c'est une maison d'édition. Moi, je m'intéresse à un monsieur qui s'appelait Pierre, qui se nommait Larousse, qui a créé la maison d'édition, mais qui a surtout, pour moi, créé et validé un texte majeur, qui est parfois naïf, qui est parfois insuffisant, mais qui a un poids et une présence historique très très forte à cette époque-là, dans toute l'Europe d'ailleurs. Ça n'a pas été traduit parce que c'était gigantesque, mais ça a inspiré beaucoup de travaux. Et je pense que c'est un peu une spécificité française, parce qu'il y a aussi une encyclopédie qui est partiellement due à Pierre Leroux, le socialiste utopiste, et qui est aussi dans la polémique. Et il y a le dénommé Maurice Lachâtre, qui a été traducteur de Marx et qui a donné en français une sorte de vision du monde, disons, para ou semi-marxiste, entre 1860 et 1890. Et c'est cette variété idéologique et cette affirmation de conviction à l'intérieur d'une présentation pédagogique du savoir est un peu une spécificité française. On ne trouve pas ça avec autant de vigueur dans d'autres traditions, avec des exceptions, une assez conservatrice mais intéressante poétiquement, qui est l'encyclopédie de Coleridge, qui n'a pas marché parce que c'est un grand poète, c'était un moraliste inscrit dans la tradition philosophique anglaise, et son encyclopédie, justement, qui n'était pas alphabétique, était dans un ordre très très intéressant pour nous à déchiffrer maintenant, mais qui pouvait pas aboutir à un bouquin très vendable. Donc les éditeurs l'ont totalement trahi, ce qui fait que c'est séparé d'eux et qu'il y a une vraie encyclopédie de Coleridge qui est restée virtuelle dans ses commentaires, parce qu'il s'occupait d'une revue. Et l'encyclopédie éditée à deux reprises, qui est une trahison, mais où il y a tout de même des traces de cette originalité. Et aujourd'hui, dans le monde contemporain, il y a en Europe occidentale quelques encyclopédies qui sont plus énergiques au point de vue idéologique et plus critiques que d'autres. Celle que j'aime beaucoup, c'est l'encyclopédie italienne Einaudi, où j'ai trouvé plein de choses intéressantes, avec beaucoup d'auteurs italiens et français, parce qu'ils avaient demandé des articles à Genette, à Barthes, et à pas mal de penseurs français sur les questions de langue, de communication, etc. Et c'est une encyclopédie qui pose des problèmes, alors que les encyclopédies du passé présentaient, donnaient surtout des réponses. Mais c'est la tradition de Diderot, qui n'arrête pas de critiquer sa propre encyclopédie en disant qu'elle est très mal foutue, qui fait de l'autocritique et parfois qui fustige les collaborateurs qu'il n'aime pas, tout en les publiant, et qui montre une espèce d'ouverture d'esprit qu'on ne va jamais trouver ailleurs, parce qu'aucun éditeur au monde ne supporterait cette liberté de l'auteur vis-à-vis de ce qu'il écrit.
L'encyclopédie, ça se veut un projet global. Et en fait, c'est un livre éphémère.
C'est un livre éphémère, et c'est ce que mon titre essaie de dire, c'est que c'est toujours un reflet de quelque chose. C'est-à-dire que, bon, il y a la théorie marxiste du reflet, mais c'est pas à ça que je veux faire allusion. J'aurais plutôt une idée du miroir qui serait celle de Lewis Carroll. C'est-à-dire que, comme avec Alice, quand elle passe à travers le miroir, Carroll souligne, qui était, je rappelle, mathématicien et logicien, et professeur de logique et de mathématiques, et amateur de petites filles, chaste, semble-t-il, et très bon photographe, beaucoup de qualité, et créateur d'Alice au Pays des Merveilles, ce qui est quand même pas le moindre de ses vertus, raconte que, justement, le miroir est quelque chose de très trompeur, parce que la symétrie droite-gauche y est renversée, et Alice, dès le début, observe que la chambre qu'elle voit dans le miroir n'est pas sa chambre à elle, pour des tas de raisons, des positions réciproques, etc. Et je pense que l'encyclopédie, quand c'est un instrument social important et qui a de l'impact, bon, au Moyen-Âge, on a cet exemple très étonnant de cette encyclopédie d'Isidore de Séville qui s'appelle « Les étymologies », parce que étymologie au sens étymologique, c'est-à-dire le sens vrai des mots, C'était Jean Paulhan qui disait que l'étymologie fait sa propre réclame, puisqu'elle dit « je suis le sens vrai », ce qui est tout à fait faux, mais ce qui est très intéressant, parce que c'est une théorie dans laquelle, qui est platonicienne, dans laquelle, à l'origine, le mot dit la chose, en vérité et en profondeur. Et cet Isidore de Séville, qui m'intéresse à des tas de points de vue, parce que c'est un évêque, il travaille pour des rois visigoths en Espagne, à une époque bénie de presque deux siècles où il n'y a pas de, des tripages réciproques et où ça se passe assez bien. Et il crée une œuvre qui va servir de modèle, recopier. Nous avons 1000 manuscrits. Alors imaginez, recopier à la main une encyclopédie 1000 fois, ça suppose un succès à une époque où il y a très peu de gens qui savent lire et écrire, absolument colossal. Donc c'est un guide de pensée et de connaissances pour presque tous les clercs d'Europe occidentale pendant 6 siècles. Ça, je veux dire qu'il n'y a pas beaucoup de, d'auteurs qui peuvent se prévaloir d'une telle influence et d'une telle durée culturelle. Donc ces bouquins-là ont parfois un impact social, politique, intellectuel, poétique parfois aussi, qui est tout à fait considérable.
Mmh. Quelle est la chance de vie d'une encyclopédie ?
Écoutez, je crois que les grandes encyclopédies du Moyen-Âge ont montré que ça pouvait durer pendant des ères entières. Aujourd'hui, je pense que c'est plus rapide parce qu'on est obligé de les mettre à jour sans arrêt. Et il y a une très belle illustration de ça, d'une très bonne encyclopédie, mais qui ne m'émeut pas et qui me mobilise moins que d'autres, qui est l'Encyclopédia Britannica, qui est vraiment une très très bonne référence, mais qui n'a pu vivre qu'avec des dizaines d'éditions différentes. Tous les 20 ans, on refait tout.
C'est votre tête de Turc.
C'est un peu. C'est... Non, pas vraiment, parce que c'est en même temps... Oui, j'y trouve un peu de savoir... comment dirais-je, aménager, arranger, pas de la langue de bois, mais du politiquement correct, on va dire. Et c'est un peu dommage. Et là, il y a quand même un sommet qui, pour le moment, est indépassé. Je ne sais pas s'il est indépassable. C'est Diderot et d'Alembert, avec tous ses défauts. Je veux dire que les défauts même de l'encyclopédie de Diderot sont des vertus. C'est parce que ça montre... Finalement, il fait imploser le modèle de l'intérieur. Et est-ce que c'est pas ça qu'il faut faire? Or, malheureusement, quand on aborde l'époque contemporaine avec les encyclopédies sur Internet, que je ne nommerai pas, on a au contraire une espèce de régression mentale considérable au nom de deux principes, dont un est positif, qui est la démocratie et la gratuité, mais dont l'autre est beaucoup moins, parce que derrière, il y a des intentions commerciales très évidentes.
Donc, les grands projets, les grands progrès technologiques, quand on nous rebat les oreilles, en fait...
aboutissent à des figements ou à des reculs intellectuels. C'est mon avis. Et je critique pas tellement ces encyclopédies pour leurs erreurs ponctuelles, qui sont dues au fait qu'elles sont ouvertes à quiconque veut y contribuer, ce qui est théoriquement une belle idée, mais ça ne fonctionne pas très très bien, mais plutôt parce qu'elles sont rédigées de la manière la plus plate et la plus convenue qui soit. Et que c'était vraiment pas la peine qu'il y ait eu Diderot et la suite, et les gens du 19e siècle avec leur capacité de polémique, et même la volonté pédagogique dans tous les sens que manifeste Rabelais, qui n'a pas écrit d'encyclopédie, mais on peut dire que dans une certaine mesure, l'éducation de Pantagruel est encyclopédique, c'est très clair. Et d'ailleurs, là, il y a un très curieux paradoxe historique, c'est que le XVIe siècle, qui est bouillonnant d'idées et qui invente presque tout, ne réalise pas. Il y a quelques encyclopédies partielles sur des domaines précis, mais il n'y a pas d'encyclopédie générale. Peut-être qu'il pensait à l'époque que c'était une absurdité de vouloir faire ça, qu'on n'y arriverait jamais. Et c'est le XVIIe siècle qui réalise. Et qui, évidemment, réalise avec moins de fraîcheur, d'inventivité que le 16e avait manifesté. Et bon, j'ai essayé dans ce livre justement de montrer le jeu entre la réalité éditoriale qui est, à laquelle on pense en premier. Une encyclopédie, tout le monde sait ce que c'est très familier, c'est un objet dont on se sert tous les jours pour vérifier une date de naissance ou quelle est la capitale du Guatemala. Ça, c'est trop facile, c'est Guatemala City, mais disons du Honduras, tout le monde ne sait pas que c'est Tegucigalpa. Bon, et ça, c'est quasiment les jeux télévisés qui sont ouais. derrière ça. Et là, on est dans un affaiblissement du modèle qui est finalement le quiz le plus lamentable dans lequel il y a un petit exercice de mémoire. C'est pas de ça qu'il s'agit à l'évidence dans les grandes encyclopédies. Pour le moment, il n'y a que les grandes encyclopédies sur papier imprimées qui tiennent le choc.
Vous ne pensez pas qu'elles sont menacées de disparition, ces encyclopédies?
Écoutez,
sur papier,
pour le moment, le livre résiste. Pour le dictionnaire, c'est une évidence. Pour l'encyclopédie, c'est moins vrai. Il est vrai qu'on ne pourra plus publier des ouvrages en 45 volumes, pour des raisons pratiques. Mais il y aura certainement, si vous voulez, une espèce de mutation de ce qu'on trouve sur Internet pour réacquérir les qualités de ce qu'on trouvait précédemment sur le papier. Finalement, la technique n'est pas importante. Pour le moment, elle a eu des effets qui sont globalement négatifs, tout en étant positifs dans le modèle de communication. Parce que cette gratuité et cette importance de... Jamais on a eu tant d'informations réunies et consultables commodément sur un système mondial comme ça, jamais. Mais ce n'est pas en soi un très grand progrès.
Oui, on est parti de la différence qui peut exister entre un dictionnaire et une encyclopédie à l'arrêt. En dehors des problèmes de contenu, il y en a une majeure, c'est que l'encyclopédie fait appel à des images.
Elle est
illustrée.
Il est difficile. Si vous voulez, la grande différence en matière de sémantique, c'est que l'encyclopédie a affaire à des noms propres, c'est-à-dire à des entités uniques. Napoléon, même s'il a des visages différents, aux diverses époques de sa vie, aux différentes circonstances, ou qu'on peut en parler de manière très différente, est une entité unique. Alors que le dictionnaire, par définition, va énumérer les mots d'un lexique, c'est-à-dire des mots qui sont censés abriter des concepts. C'est toute la différence qui existe entre la description du comportement de tel animal individuel dont on va induire un comportement collectif, et puis le mot chameau ou le mot écureuil qui, lui, subsume des quantités de choses souvent très différentes. Beaucoup de mots ont une valeur terminologique précise dans un domaine et une valeur vague dans le langage courant. Et c'est ça que le dictionnaire doit gérer, parce que son objet, c'est l'usage des mots, l'usage de tout le monde. Alors que l'objet de l'encyclopédie, c'est la maîtrise des noms propres et des connaissances qui sont censées décrire ou raconter le réel. Mmh. Raconter si c'est de l'histoire, décrire si c'est de la science ou de la technique, par exemple.
Le texte est donc primordial ?
Le texte est primordial. Et le texte du dictionnaire, il a une caractéristique aujourd'hui, en tous les cas, mais il l'a toujours eu, qui est d'être très codé. C'est-à-dire qu'on a toujours la même structure d'article en article, parce qu'il y a un besoin des personnes qui consultent de trouver très vite la chose dont ils ont besoin. Et comme il y a énormément de contenu, d'informations, dans un article de dictionnaire, il est absolument nécessaire qu'elle soit présentée de manière homogène. Alors que l'encyclopédie est assez libre dans ses développements. En outre, un dictionnaire va être forcé de traiter tous les mots d'un domaine parce que ce sont des mots courants. Alors que l'encyclopédie va être obligée de choisir. Bon, je donne l'exemple, mais on pourrait en trouver d'autres très facilement, qui est que si je veux parler des abeilles qui produisent du miel, dans une encyclopédie, il va falloir que je choisisse un article qui va être vraisemblablement apiculture, mais qui va peut-être être miel, pour décrire cette activité rurale, puis le commerce qui en découle, etc. Alors que dans un dictionnaire, il va falloir que je traite apiculture, miel, ruche, abeille, cire et tout le vocabulaire lié. Donc l'auteur de dictionnaire est lié par la langue, il est complètement ficelé, et l'auteur d'encyclopédie est beaucoup plus libre, en apparence en tous les cas, parce qu'il est ficelé par autre chose qui est l'idéologie de sa culture. Mmh.
Je voudrais qu'on dise un mot aussi de l'autre livre que j'ai annoncé, Alain Rey, L'amour du français, Contre les puristes et autres censeurs de la langue que vous publiez chez De Noël. Pour vous, donc c'est la thèse de ce livre, on appauvrit la langue à vouloir l'épurer.
Oui, parce que l'idée, c'est que j'ai appelé ça l'amour de la langue, parce que je ne veux pas du tout présenter une critique hostile ou hargneuse à l'égard des puristes. Je pense que ce sont des gens sincères et des gens qui aiment la langue française. Mais ils se font de la langue française une image aussi fictive et aussi mythique que l'amoureux transi je sais pas, du 19e siècle, il se promenait avec un médaillon représentant une jeune fille blonde aux traits épurés et qui n'avait qu'un lointain rapport avec la personne qu'il était censé aimer. Si vous voulez, bon, ils sont un petit peu comme les troubadours du Moyen-Âge avec la princesse lointaine qui ne rencontreront jamais. Et ça a été, dans la société francophone, un travail très, très déterminé et très long pour avoir une image complètement épurée de la langue, et qui est pure, qui est claire, qui est logique, et qui est confondue avec l'identité nationale, ce qui est une très grave erreur s'agissant d'une langue comme le français qui est parlée par beaucoup de nations. L'évangile dit aller enseigner toutes les nations, et la langue française est allée se promener dans beaucoup de nations pour des raisons pures et impures, parfois le colonialisme le plus intéressé, mais les résultats sont là. C'est une langue qui n'appartient pas à la nation française.
Donc tout est mouvant et disparate dans l'usage qu'on peut faire d'une langue d'un locuteur à l'autre.
Absolument. Et je pense que quand on fait des constatations dramatiques disant le français va disparaître, il est foutu, on ne fait que confondre la langue, qui est une entité abstraite mais très très puissante et qui mène tout le reste, et puis les usages, et notamment les usages individuels. Et la perception de la langue, pour beaucoup de gens qui sont unilingues, parce que les bilingues ont une meilleure conscience des choses, la conscience de la langue apparaît pour dénoncer les fautes des autres. Ça, c'est une attitude qui est très répandue. Si quelqu'un vous dit « mais le français est foutu », si vous l'interrogez, vous allez très vite vous apercevoir que le français est foutu parce que les ministres parlent mal, parce que les présentateurs de télévision ou de radio font des fautes de syntaxe.
Sauf sur France Culture.
Sauf sur France Culture, bien entendu. Et parce que on trouve des fautes d'orthographe, même dans les journaux les plus sérieux. Et ça concerne pas la langue, ça concerne l'usage de la langue. Il y a une très belle phrase de Barthes qui disait le problème n'est pas la crise de la langue, c'est une crise de l'amour de la langue. Et j'ajouterais, c'est une crise de l'usage ou de la manière de se servir de la langue. Mmh. Et là, si on fait cette distinction, on s'aperçoit qu'une grande langue de culture, c'est-à-dire le français a 1000 ans à peu près, il s'est répandu sur à peu près tous les continents. Il n'est plus la langue la plus parlée, ni la plus diffusée, ni la plus grande référence. L'anglais a pris sa place, mais ce n'est pas parce que le français n'est pas premier en tout qu'il est censé disparaître. Mmh. Personne ne plaide la disparition prochaine de l'albanais, qui est une magnifique langue de culture, avec les œuvres de Kadaré, mais beaucoup d'autres, et qui vit très bien sa vie limitée à un territoire très précis.
Donc une langue ne doit être ni pure ni soumise.
Oui, ça c'est un...
Mais inventive.
C'est un peu une plaisanterie.
Mais inventive et ouverte.
Ça veut dire que inventive, ouverte, et elle ne l'est jamais assez. Je veux dire que tous les apports d'emprunt, ils peuvent être excessifs, ils peuvent être déséquilibrés. Dans la créativité morphologique, on a eu l'exemple politique de Bravitude, mais il y en aurait beaucoup d'autres à dire. Personne ne s'est formalisé quand Chateaubriand a inventé la vastitude, que je trouve très beau parce que ça donne une ampleur à la chose. Alors, pourquoi ne pas avoir un français plus créatif comme le demandait du Bellay à la Renaissance ?
Deux livres d'Alain Rey, L'amour du français chez De Noël et Miroir du monde chez Fayard. Du jour au lendemain, Jean-Michel Bernaud, Anne Franchini, François Poirier, Alain Weinstein. Bonsoir. Thank you.